Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On se rend ce matin aux rencontres Sème ta résistance, organisées par le réseau des semences paysannes. L'occasion de prendre des nouvelles de ce qui se passe dans quelques-uns des plus de 20 pays qui étaient présents à la communauté Emmaüs de l'Escarpot. L'occasion aussi de revenir sur l'histoire du réseau Semences Paysannes, déjà plus de 10 ans. Nourdine Ben Sadoun, quand on pense à des oasis, on a des images de paradis un peu. On imagine des lieux arborés, verts, avec de l'eau qui coule, avec énormément de fertilité du sol tout à coup au milieu du désert. C'est une sorte de vision de paradis, un peu, toujours. Oui. Vous êtes originaire d'une oasis, l'oasis de Gardaïa. Et ce que vous racontez, c'est pas exactement ça.
Oui, c'est tout à fait juste. Donc, ce qui se passe, la première des choses, avec la présence de matériaux modernes qui sont solides, ils construisent dans des terrains agricoles. Ils construisent au milieu de palmiers datés. En même temps, ils rasent les palmiers datés. Et on construit des maisons luxe et tout ça avec des climatiseurs, des chauffages, des chauffe-eau et tout ça. Donc, on utilise beaucoup d'énergie. Mais cette énergie, nous avons commencé à faire des changements climatiques. Donc, parmi les conséquences de ce mode de consommation et tout ça, le changement climatique, il a laissé nos dates de mûrir d'une vitesse incroyable et de raccourcir le cycle de palmiers datés. Et donc, chaque jour avant de dormir, j'écris toutes mes activités que je les ai faites dans le jour, dans un registre. Et après, j'écris des observations sur le climat, sur le comportement de l'oasis. S'il y a quelque chose dans les dates, si je vois quelque chose qui est un peu étrange, je l'écris.
Depuis quand est-ce que vous faites ça?
Je fais ça depuis 16 août 1991. Il y a 4 ans, les dates commencent la maturation vers le début de septembre. Maintenant, cette année, les dates sont commencées la maturation en 25 juillet. Donc, c'est un décalage plus d'un mois. Et en même temps, on a des variétés, on dit précoces, moyennes, tardives. Dans ces 4 ans, on peut pas distinguer entre les précoces et les tardives. Tout mûrisse d'un seul coup.
Mais est-ce que c'est pas simplement une année où il a fait particulièrement chaud? C'est juste cette année peut-être?
Non, c'est depuis 4 ans, le décalage, il est en train de marcher doucement. Cette année, l'écart, il était arrivé jusqu'à plus de 30 jours.
Donc les palmiers sont abattus et ceux qui ne sont pas abattus souffrent?
Oui, les autres qui restent souffrent de vieillissement. On a des palmiers qui sont vieux, on ne les remplace pas. Et les autres palmiers qui en restent, ils souffrent d'autres choses, c'est quoi? Ils sont en train de souffrir des maladies qui s'appellent les acariennes. Et en plus, pour soigner cette maladie, il faut la bouillie bordelaise. Et chez nous, à cause de la situation grave dans l'Algérie, l'État a interdit d'avoir le soufre. Parce que la composante de la bouillie bordelaise, il y a le soufre et la chaux. Donc on n'a pas ça, donc on n'a pas de médicaments. Et on voit avec nos yeux des récoltes qui sont endommagées. Il y a 2 ans, le volet d'atteinte de cette maladie dans l'oasis a dépassé 60%. On dépasse les 600 variétés en Algérie. Donc, il ne partait pas qu'à nous. C'est un bien pour toute l'humanité. En plus, nos palmiers ne sont pas des palmiers sauvages. Ce sont des palmiers adaptés par l'homme et tout ça. Donc, sont domestiques. Et la main-d'œuvre qui est spécialisée dans le palmier, elle est en train de devenir vieille. Il n'y a pas une succession de la jeunesse. Et les savoir-faire sont en train de partir. Et donc, on est en train de chercher des solutions pour résoudre ça. Parce qu'une oasis sans la présence d'un agriculteur de l'homme, elle ne peut pas aller loin.
Délégations, que ce soit françaises, locales, parce qu'on a un paysan béarnais, et les différentes délégations d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Iran et également d'autres pays européens vont symboliquement déposer des semences qui viennent de leur pays dans cette maison de la semence, des semences paysannes du Béarn, autrement l'Ustado de las Semences Paisanas, pour la remplir et en espérant que cette initiative, cette maison permette de faire naître une initiative autour de la semence paysanne en Béarn.
Il y a une date qui est souvent évoquée au sein du réseau Semences Paysannes, dont on va retracer aujourd'hui l'histoire. C'est 2003, Hausseville. Alors, 12 ans plus tard, on peut presque commencer à faire les anciens combattants. Bob Ali Brac, vous y étiez à Hausseville?
J'y étais, oui. Et puis c'est vrai que c'est un moment important. C'est presque aussi enthousiasmant qu'ici, ou aussi enthousiasmant que ce qu'on est en train de vivre ici à Semta Résistance. Et c'était surtout la découverte les uns des autres. Parce que finalement, comme le réseau n'existait pas, les gens ne se connaissaient pas du tout. Et on les a rassemblés. Et ça a été vraiment un moment assez extraordinaire à cause de ça.
Mais vous allez lever un coin du voile du mystère et nous dire qui étaient ces chacun et ces gens repérés.
On savait que quelques agriculteurs continuaient à faire leurs semences ou avaient des collections dans leurs champs et expérimentaient des variétés population, mais ils étaient peu nombreux et finalement c'est un peu par le bouche à oreille qu'on savait que dans telle région il y avait un tel et un tel. Et il a fallu aller chez eux parce qu'en plus de ça ils avaient un côté un peu clando. Ils pensaient tous qu'ils n'avaient pas le droit. Et donc, ils le diffusaient pas tellement autour d'eux. Donc, il fallait vraiment les connaître pour les repérer. Et donc, en les retrouvant et en les ramenant, bon, ça faisait quand même plus de 200 à 300 personnes quand même qui sont venues à Hausseville. On a tout de suite réalisé qu'il fallait mettre tout le monde en réseau. Et donc, ça a été vraiment un moment très, très enthousiasmant.
Combien de personnes environ?
Entre les gens d'Hausseville, il y avait tout le monde n'était pas du tout paysan, producteur de semences paysannes à l'époque. Hein. Il y avait aussi, il y avait quelques chercheurs. Il y avait comme Isabelle Vollringer qui était là. Bon, il y avait nous, les associations.
De nous, vous étiez voilà une association de solidarité BD,
oui.
Biodiversité, échange et diffusion d'expériences, oui. Mais plutôt à vocation internationale. Vous aviez énormément voyagé en Afrique.
Justement, nous, on avait déjà, par le travail qu'on fait en Afrique, et puis bon, on était en lien avec des réseaux aussi en Amérique latine et en Asie, on savait très bien qu'il y avait des groupes qui développaient, ou des mouvements qui étaient sur la conservation des semences et des variétés traditionnelles. Il y en a beaucoup plus qu'en France, ou même on pensait qu'en France ça n'existait pas. Hein. Vous savez qu'à l'époque, le Bureau des ressources génétiques disait qu'il n'y avait pas de conservation à la ferme en France, que c'était quelque chose des pays du Sud. Et nous, justement, on connaissait un petit peu les gens de ces réseaux, et puis on pensait aussi qu'en France, ça n'existait pas. Et le travail de Hausseville, ça a été justement de rendre apparent que aussi en France, il y avait des gens qui faisaient ce travail de gestion à la ferme d'une diversité. Moi, j'étais super content à ce moment-là. J'étais vraiment heureux parce que je me suis dit, mais ouais, on a de quoi faire démarrer la même chose, un mouvement pareil.
Le plus étonnant, c'est peut-être de vous entendre raconter à quel point c'était inimaginable de penser que des paysans produisaient leurs semences à la ferme. Vous avez même dit tout à l'heure que c'était quelque chose de clandestin, parce que c'était interdit, en tout cas, ils le croyaient. L'image qui est restée vraiment extrêmement forte dans l'imaginaire collectif, c'est que le paysan, il sème sa récolte. Alors, on sait qu'il y a des bagarres, on sait qu'il y a les gros semenciers qui essayent de récupérer ce qu'ils appellent un privilège, mais pourquoi est-ce que c'était devenu si exceptionnel, Patrick de Cochecot, de produire ces semences à la ferme? Vous n'y étiez pas. À Hauteville.
J'étais pas à Hauteville, j'étais déjà paysan, je suis pas paysan à la base. J'allais dire j'ai fait un retour à la terre en 95, mais c'est pas un retour à la terre parce que je venais pas de la terre, je venais du béton, je suis né à Paris, donc c'était plutôt un aller simple à la terre. Du coup, j'étais plus dans l'apprentissage, j'apprenais à devenir paysan, je suis toujours d'ailleurs en apprentissage pour devenir paysan. C'est vrai que c'est quelque chose de surprenant quand on s'aperçoit que quelque chose où pratiquement tout le monde pense que les paysans font leurs propres semences et les ressèment, les réutilisent chaque année. Et quand on devient paysan, on s'aperçoit que non, finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, que les semences qui sont disponibles sont les semences de l'industrie, dans le commerce, et que pour accéder à d'autres types de semences, eh ben, il faut vraiment investir des réseaux. Et c'est vrai ce que racontait Bob tout à l'heure, c'est qu'en 2003, la plupart des gens qui le faisaient étaient dans un doute, parce que les paysans sont pas des experts juridiques par nature, et ils savaient pas s'ils avaient le droit, s'ils avaient pas le droit, et on leur laissait croire qu'ils avaient pas le droit, donc ils se cachaient pour le faire. Le gros travail du réseau, ça a été ça, ça a été de mettre un peu plus dans la lumière et que ils acceptent de se mettre dans la lumière parce qu'ils étaient nombreux, parce qu'ils étaient en réseau, parce qu'ils étaient pas seuls. Le fait de voir qu'il y a du monde qui le fait, qu'il y a d'autres gens qui le font et qui préservent des potagères, des céréales, des fourragères, etc. avec passion la plupart du temps, c'est ça, c'est des gens passionnés. Quand ils se rencontrent, ils font circuler l'énergie et ils donnent une force terrible à démultiplier l'effet. Je crois que la grosse force du réseau, ça a été ça. Ça a été de dire, on n'est plus tout seul, ce qu'on fait c'est légitime, on verra après si c'est légal ou pas, on va se bagarrer pour que ça le devienne légal, mais en tout cas c'est légitime, et le fait de le faire ensemble, ça nous donne la force de le faire. Quoi. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ici, ce qu'on a fait ce week-end, avec le village Emmaüs de l'Escarpeau qui nous accueille, c'est exactement ça, c'est le réseau qui se continue de se construire de rencontre en rencontre, avec des gens qui viennent d'un cercle de plus en plus élargi, et ces rencontres-là, il y avait 30 pays qui sont venus apporter leur expérience et aussi puiser l'énergie dans le collectif.
Là, on va y revenir, bien sûr, à ce qui se passe ce week-end. Mais j'aimerais peut-être que vous expliquiez l'un ou l'autre un peu mieux ce que vous entendez par légal, légitime. De fait, ce n'était pas légal de conserver, échanger, ressemer. Ces semences, Patrick de Cochco ?
En fait, si, ça ne l'était pas illégal. C'est-à-dire que c'est pas le fait de les cultiver, c'est pas le fait de les reproduire, c'est pas le fait de les sélectionner. Ce qui est illégal, c'est d'en faire commerce. Ce qui n'est pas la vocation du paysan à l'origine. À l'origine, le paysan, c'est de produire suffisamment pour nourrir sa famille et de vivre aussi de l'excédent pour nourrir la population. Donc le fait de mettre en marché, de devenir un metteur en marché mondial, c'est pas la vocation du paysan.
Mais là, vous me surprenez, parce qu'il y a bien quand même des textes de loi qui disent qu'il est interdit de vendre, donner ou échanger des semences.
Alors, il est interdit de vendre, donner ou échanger certaines semences, encore une fois, dans un cadre commercial. Ce qui a permis le travail du réseau, c'est d'identifier les espaces qui restent encore. Ces espaces sont notamment l'expérimentation. On a le droit d'expérimenter, on n'a pas besoin d'avoir un chercheur pour expérimenter. Donc, c'est la reconnaissance d'une expérimentation paysanne. Et pour cette expérimentation paysanne, on a besoin de faire circuler les semences, on a besoin de les échanger. Ça, c'est déjà une voie d'échange qui ne rapporte pas d'argent, mais qui permet la conservation, qui permet la circulation. Les autres voies, c'est pour un jardinier amateur, on a tout à fait le droit de lui vendre des quantités limitées, c'est la loi qui le dit, des quantités pour une utilisation qui n'est pas commerciale, pour un jardinier qui fait son jardin pour se nourrir lui et sa famille. Ça reste encore des choses qui sont autorisées. Donc à partir de ces espaces-là, le fait aussi aujourd'hui, du fait de ce travail de fond du réseau, à la fois sur le terrain et à la fois dans le travail de plaidoyer, ça a permis également de faire reconnaître la nécessité de conserver cette biodiversité. Donc l'acte de conservation non plus, il n'est pas non plus répréhensible. Et pour les besoins de la conservation, il est évident qu'on a besoin de les échanger. On peut pas conserver des plantes qui se fécondent les unes avec les autres, on appelle des allogames ou qui ont des fécondations croisées. On peut pas toutes les conserver sur le même lieu. Il faut donc un réseau, il faut donc des personnes qui soient séparées. C'est le cas du maïs, par exemple. Et si on veut conserver un grand nombre de variétés de maïs, il faut un grand nombre de paysans et il faut qu'ils puissent s'échanger ces variétés, qu'ils puissent éventuellement en sélectionner d'autres, ce qu'ont fait les paysans pendant des milliers d'années. Donc non, c'est pas illégal de les cultiver, c'est pas illégal de les conserver, de les cultiver et d'en vendre le produit, de faire commerce de la semence. Effectivement, c'est ce problème-là qui pose un problème réglementaire qui est adressé par le réseau depuis qu'il existe et sur lequel le réseau travaille pour rendre légal ces pratiques.
Mais Bob Alibrac, j'aimerais qu'on revienne sur les premières années, la constitution de ce réseau, quand il y avait encore toutes ces zones d'ombre. Comment est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé entre ces premiers paysans qui s'étaient retrouvés un jour à Auzeville et qui sont rentrés ensuite chez eux?
Ils ont surtout, dans un premier temps, et c'était un peu compliqué, parce que ils étaient d'une part de régions différentes. Ils avaient des motivations différentes pour avoir des marais, des collections vivantes dans leurs champs. Ils s'étaient intéressés à la biodiversité cultivée et à l'entretenir. Et puis, ils étaient sur des espèces différentes. Et assez vite, bon, dans les premières années du réseau, on avait parfois des discussions de sourds, quoi, parce que les problématiques qui se posaient sur les fruitiers n'étaient pas les mêmes que sur les potagères, sur les espèces maraîchères, c'était pas la même chose.
Donc il y avait besoin de se spécialiser.
C'est pas ça, c'est que les plantes sont différentes, elles ont des régimes de culture différentes, et les agriculteurs qui les cultivent, ils ont des logiques différentes. Les gens qui s'occupent des maïs, comme l'expliquait Patrick de Cochecot tout à l'heure, qui sont des plantes allogames où il faut forcément que si vous voulez maintenir plusieurs variétés population, il faut que vous mettiez des distances importantes entre ces variétés, sinon elles vont s'auto-féconder, vous allez avoir un gros mélange. C'est pas le cas pour le blé. Donc les gens du blé avaient une autre problématique, d'autant plus que, par exemple, les paysans boulangers, ceux qui étaient les cultivateurs de blé, le faisaient aussi pour faire du pain, et souvent du pain à la ferme. Et donc, ils avaient d'autres types de questionnements. Et ce qui fait que, au bout de 2-3 ans, on a bien compris ça, on n'était quand même pas énormément d'organisations. Au début, on était une quinzaine d'organisations. On en est 80 maintenant, donc ça s'est bien développé quand même, le réseau. Donc nous, au bout de 2-3 ans, on s'est aperçu qu'il fallait faire des groupes par espèce. Et donc, il y a eu des groupes de travail, sur, par exemple sur les blés, qui ont commencé à faire la tournée des champs. Ils sont partis se visiter les uns les autres, se rendre visite, et regarder ce que faisaient les uns les autres. Et ils se sont enrichis, en fait, des savoirs et des pratiques chez les uns et chez les autres. Donc chaque année, on organisait comme ça les visites de ferme, les tours de ferme. D'ailleurs, ils n'étaient pas nombreux, c'était 4 ou 5 au départ. Et puis après, ça a vite fait des petits, parce que des jeunes agriculteurs qui voyaient ça, ils avaient vraiment envie aussi de monter leur propre collection. Et donc ça a essaimé très rapidement.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de collection, Patrick de Cochecot?
Alors on a essayé de retrouver en fait la diversité, de l'observer puisque elle avait disparu des champs. Le blé, c'est effectivement assez parlant. La plupart des gens qui imaginent que le blé, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les champs, c'est-à-dire quelque chose qui fait 20 cm de haut, qui change de couleur en fonction des produits qui sont appliqués dessus, et dans lesquels on voit des grosses traces de tracteurs qui sont justement les tracteurs qui arrosent avec force fongicide, voire insecticide, etc.
Moi, j'ajouterais, parce que c'est ce qui me frappe toujours, qu'il n'y a qu'une seule tête, quoi. C'est totalement plat.
Voilà, donc c'est des clones, en fait. C'est des plantes qui sont toutes les mêmes. Et en fait, le blé, c'était pas ça, avant. Le blé, on l'a redécouvert en allant chercher dans les centres de ressources génétiques, chez les paysans qui en cultivaient encore, des blés d'avant. Les blés d'avant cette période-là, les blés qu'on appelait des blés de pays, et qui étaient cultivés encore avant la Seconde Guerre mondiale. Pour la plupart, c'était tous les paysans avaient leur variété de blé, ce qu'on appelle une population, puisque justement, à l'intérieur, les individus sont différents, comme dans une population, et non pas des clones qui sont les choses aujourd'hui vendues par l'industrie dans le commerce. Donc pour pouvoir retrouver ces variétés, il fallait les observer, parce qu'on ne sait pas exactement si les blés qui étaient cultivés dans notre pays il y a 50 ans sont toujours adaptés chez nous, comment ils ont été conservés.
Pourquoi est-ce qu'ils ne le seraient plus?
Eh ben parce que le climat a changé, parce que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que souvent ils ont été aussi conservés dans des congélateurs à des températures très froides, et les semences peuvent y perdre une certaine vitalité et peut-être aussi une certaine diversité, puisque les modes de conservation par les centres de ressources génétiques sont souvent aussi un petit peu fixistes, dans le sens où on veut conserver la plante identique à celle qui est rentrée le jour où elle a été prélevée dans les champs des paysans, bien sûr, puisque c'est les paysans qui les conservaient naturellement avant. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui se sont dit on va faire ça. Un des fondateurs du réseau, qui était aussi en 2003 à Auzeville, Jean-François Berthelot, qui fait ça dans le Lot-et-Garonne. Il y avait Nicolas Supiot en Bretagne, il y a Florent Mercier qui fait ça en Anjou, Christian Dalmasso qui cultivent ça en Isère, Jean-Pierre Bolognini qui cultive ça en Ardèche, il y a des gens qui font ça en Bourgogne, Bernard Renault qui est un des papis du réseau qui a démarré à peu près en même temps que tout le monde, et ils ont sorti certains 10, 20, 30, 50, voire des fois plusieurs centaines de variétés pour les cultiver sur des toutes petites parcelles d'un mètre carré, pour pouvoir les observer, voir comment elles se comportaient, est-ce qu'elles se comportent bien chez moi, est-ce qu'avec ces variétés, une fois que je les ai récoltées, je vais faire un bon pain, est-ce que j'arrive à les travailler comme il faut pour faire une bonne farine et un bon pain. Et à partir de là, sont nés un peu tous les programmes de ce qu'on appelle de sélection participative ou sélection collaborative, en relation avec les chercheurs qui étaient d'ailleurs présents à Hausseville en 2003, pour ensemble retrouver les savoir-faire de sélection. Parce que quand on prend l'habitude, depuis la Seconde Guerre mondiale, les paysans ont pris l'habitude d'aller acheter leurs semences à la coopérative ou chez le marchand de semences, on perd les savoir-faire et on les transmet plus pour l'observation d'une plante. Comment est-ce qu'on est capable d'observer une plante? Est-ce qu'on sait lire si la plante se comporte bien, si elle se sent bien chez nous, si elle va faire un bon produit à la fin? Et ça, c'est ce qu'on essaye de retrouver ensemble depuis 12 ans maintenant, et depuis plus de 12 ans pour les pionniers qui ont démarré avant le réseau Semences Paysannes et qui se sont rassemblés à Hausseville en 2003.
Parce que de fait, il s'est passé un mouvement assez curieux au XXe siècle, c'est que cette connaissance et cette observation et cette conservation des semences, elle a quitté les fermes pour aller dans les centres de recherche que vous avez évoqués à plusieurs reprises et pour aller dans les conservatoires. Alors, il y a eu énormément de conservatoires nationaux et puis ce mouvement s'est continué et a pris différents tournants. Bob Alibrac.
C'est vrai que le XXe siècle, ça a été le siècle des épurateurs, hein. Les lois, hein, et l'idéologie des scientifiques, hein, c'était de faire des variétés à haut rendement, des variétés d'élite. On voulait la pureté variétale, donc avec une terminologie qui rappelle quand même des sacrés moments de l'histoire, même chez les êtres humains. Et tout le monde baignait là-dedans, donc il fallait avoir des hauts rendements, des variétés d'élite et certifiées. Et tout ça, on remplaçait toute la diversité des champs des agriculteurs, leurs variétés de pays, etc. Et on leur imposait, et les règlements ont été très très forts pour normaliser ça. Et donc, on est arrivé à les décérébrer, les agriculteurs, pour en faire des exploitants agricoles qui achetaient leurs semences. Et la semence était faite dans des stations expérimentales de la recherche et vendue par le secteur privé. Alors, bien sûr, pour faire ces nouvelles variétés, les épurateurs ont quand même besoin de la diversité, parce que les gènes de résistance, ça se trouve pas n'importe où. Et il se trouve que dans les variétés paysannes, dans les variétés locales, ben, il y avait beaucoup plus de gènes de résistance, des choses intéressantes pour les sélectionneurs. Et donc, ils ont favorisé ce qu'on a appelé la conservation ex situ, c'est-à-dire dans des banques de graines.
Là aussi, la terminologie est intéressante. On est dans une banque.
Ah oui, ils appelaient ça banque, oui, bien sûr, oui. Ouais, c'était même, on dit conservatoire, mais en fait, on parlait souvent de conservatoire lorsque c'était sur les fruitiers, quoi. Quand c'était des collections vivantes qu'on maintenait dans des espaces expérimentaux, toujours
dans des vergers.
Oui, dans des vergers, mais dans des stations fermées, hein. C'était pas chez les paysans. Hein. Mais la plupart du temps, on parle de banques de gènes. Donc, dans ces banques, bien fermées, on garde des échantillons de toute la diversité. Bon, alors, comme, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est pas facile en fait de conserver au grand froid. Et puis bon, on s'est fait aussi au bout d'un moment un échantillon. Il perd son pouvoir de germination et donc il faut le renouveler. Alors où vous allez renouveler une variété locale dans une banque de gènes? Eh ben vous n'allez pas aller chez le paysan puisque le paysan il n'en a plus puisque vous lui avez filé vos variétés hybrides ou vos nouvelles variétés. Donc, dans la station, il y a des lieux pour pouvoir renouveler, remultiplier. Mais c'est plus dans les mêmes conditions que les conditions initiales du champ du paysan. Et on peut trouver des aberrations comme quoi des blés du Sahara peuvent être renouvelés dans la banque de gènes de Gartensleben en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. Mais qu'est-ce que les généticiens espèrent, en fait, par rapport à la dérive génétique qu'il va y avoir lorsqu'on va le remultiplier cet échantillon. Et effectivement, il y a tout de suite quelque chose qui se passe, qui fait que le nouvel échantillon qu'on va remettre dans la banque et qui a été reproduit sera tout à fait différent et probablement tous les caractères intéressants du départ n'y seront plus. Donc il y a eu ce travail, et ce travail de mise en banque, ça a duré vraiment pendant 20 ans, on l'a fait de manière massive à travers le monde, pas seulement en France, hein, mais à travers le monde. Et on est passé assez rapidement de peut-être une petite dizaine de banques de gènes à travers le monde à 1500. On a 1500 banques de gènes maintenant à travers le monde. Parce que tous les pays en voulaient une, les grands centres internationaux en ont développé d'importantes. En même temps, on a pu comme ça mettre en réserve, on pensait en réserve, à peu près 7 millions et demi d'échantillons, en fait, de cette diversité. C'est à peu près les années, entre les années 70 et les années 90. Et on a remarqué, parce qu'en 96, il y a eu une première évaluation des échantillons des banques, ils sont aperçus qu'il y avait déjà un sixième qui ne germait plus. Donc on voyait que c'était pas si facile que ça. Imaginez qu'il y ait une coupure de courant, et dans pas mal de pays tropicaux où il y a des grosses tempêtes, des trucs comme ça, ça arrive, un week-end, donc où le courant va pas être remis dans les 10 minutes qui suivent, c'est-à-dire au bout d'une journée, et ben toutes vos collections, elles sont foutues, parce que toutes les graines vont se mettre à germer, et là, vous pourrez plus les réutiliser pour vos programmes de sélection. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de banques de gènes qui ont été soit détruites, soit mal gérées. Détruites aussi par les guerres, parce que vous savez même que tout récemment, en Syrie, il y avait une des banques de gènes les plus importantes à Alep, à Al-Iqarda, donc dans un centre international qui était le centre pour tout ce qui était les espèces d'origine du Moyen-Orient et qui sont des espèces fondamentales pour toutes nos cultures méditerranéennes, hein, que ça soit le blé, l'orge ou la lentille, etc. Donc ils géraient ça dans leur banque, et après la guerre qui s'est poursuivie, ils ont dû tout déménager à toute vitesse. Ils ont exfiltré vers la Jordanie, exfiltré vers le Maroc ou la Turquie. Et là, maintenant, ils viennent d'en mettre une partie dans un réservoir qui est la banque de gènes de l'apocalypse, qu'on dit, qui se trouve au nord de la Norvège, dans un espèce de coffre-fort où on a normalement les doublons de chaque...
Ça ressemble plutôt à un abri anti-atomique, je trouve.
Bah, c'est un abri qui est censé protéger ou garder comme une arche de Noé un échantillon de chaque une des espèces de plantes de la Terre. Enfin, mais
il a quelques particularités, ce coffre-fort de Svalbard. D'abord, il n'a pas été financé que par l'État norvégien.
Il a été quand même surtout financé par l'État norvégien. On a beaucoup dit que c'était aussi les fondations privées de Bill Gates, etc., qui avaient aidé au financement. Le départ, c'est vraiment le gouvernement norvégien. C'est après, c'est dans le fonctionnement du fonds global qui est chargé, en fait, de l'entretien, etc., où il y a des financements du secteur privé. On comprend que le secteur privé des multinationales de la semence puisse être intéressé à garder comme ça ou à s'assurer qu'une réserve de ressources génétiques soit proprement conservée. Ouais.
Patrick de Koschko, comment est-ce que vous voyez, vous, ces banques et cette banque particulièrement bien gardée ?
Déjà, l'emploi des mots et le choix des mots, il est important. On a parlé de banque, mais on parle de banque de gènes. On conserve pas des gènes. Enfin, nous, les paysans, on conserve pas des gènes. On cultive des plantes, on cultive des êtres vivants, on les renouvelle. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on est passé à la banque de gènes ? À qui ça sert ? Il y a un autre mot aussi qui était utilisé, qui est devenu quelque chose de courant, qu'on utilise nous-mêmes, on est un peu obligé d'utiliser, c'est le mot « ressources génétiques ». Les semences paysannes sont devenues des ressources génétiques. Avant, ce n'était que des semences ou des graines. Maintenant, c'est des ressources génétiques. Mais c'est des ressources pour qui ? Donc là, en fait, quand on voit ressources génétiques et banque de gènes, on voit bien que le concept, c'est on croit que quand on aura pris un certain nombre de plantes, on aura l'ensemble des gènes présents et que quand on a cet ensemble de gènes, avec le progrès de la science, on va pouvoir faire ce qu'on veut, on va pouvoir couper des gènes, en mettre là, en rajouter là. Bon, c'est les OGM, mais il n'y a pas que les OGM. La direction qui nous est proposée par la technoscience, c'est la biologie synthétique, c'est faire du Lego avec des gènes, faire des nouvelles plantes qui vont être miracles et qui vont nous nourrir de façon miracle. Alors qu'on sait très bien que c'est pas ça et que la technoscience a déjà fait ses preuves, il me semble, dans l'état sanitaire de la population mondiale, avec ce qu'on sait de malbouffe, d'obésité, de problèmes de maladies essentiellement liées à l'alimentation, au nord, et puis des famines au sud. Donc ces banques-là sont des banques qui sont faites pour l'intérêt de l'industrie, qui a à sa disposition des outils avec lesquels elle peut additionner des gènes, bricoler des gènes, mettre des brevets dessus et confisquer totalement l'origine de notre alimentation dans ses mains et la supprimer des mains des paysans. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument dénoncer et d'alerter les mangeurs que quand ils mangent, quelque part, ils font un acte politique en choisissant derrière leur aliment, il y aura une semence.
Le mot de confiscation n'est pas trop fort puisque effectivement, dans ces fameuses banques, il se passe des choses un peu étranges. D'abord, cette banque de Svalbard, on l'a pas précisé, mais comme elle veut avoir un échantillon de tout ce qui est semence sur la Terre, elle peut pas en prendre énormément, donc c'est des toutes petites quantités. Et on n'a pas le droit d'en mettre plus, mais on n'a pas non plus le droit d'en retirer comme on pourrait le souhaiter. Donc si une semence disparaît d'un pays, d'une région, ben, c'est pas évident de pouvoir la récupérer. Tout le monde n'y a pas accès. Et puis, l'autre élément un peu curieux, c'est que, vous le disiez, des semences qui sont conservées en congélateur ou dans du froid ou je ne sais quoi, elles perdent leur qualité germinative et puis surtout, elles perdent leur capacité de s'adapter au climat, au terroir. Vous avez beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure, Patrick de Cochecol, sur le fait que les semences évoluent avec la vie, avec le temps qui passe. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que pour constituer ce réseau des semences paysannes, vous avez dû faire appel à ces banques à un moment où elles étaient encore nationales et publiques, d'accès public.
Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut absolument reconnaître leur intérêt. C'est-à-dire que même si pour nous, conserver le vivant au froid et au congélateur, c'est pas forcément l'idéal, heureusement qu'il y a eu ces initiatives, heureusement qu'il y a eu des conservations et des banques publiques, donc qui sont accessibles normalement à tous, pour que on puisse refaire ce travail-là. C'est donc un travail indispensable, et vous avez raison de le souligner, il faut le noter, et en général, dans les banques qui sont encore publiques, on peut encore accéder à ce qui a été mis dans ces banques. Mais il s'en est perdu. Il y a eu de l'érosion, et il faut quand même en être conscient, ce qu'on récupère n'est qu'une partie de ce qui existait dans la diversité. Il y a eu une énorme perte de diversité, il en reste encore, il est temps d'agir, il est temps de la remettre dans les champs, et si on retrouve une diversité de paysans, un grand nombre de paysans, avec cette diversité de plantes, ça va revenir. Mais il est plus qu'urgent de le faire.
Bob Alibrac.
Je crois que il y a aussi le fait que l'accès aux banques, même publiques, n'est pas évident pour les paysans. Elle reste un peu le cas rare, hein, parce que la plupart des gestionnaires des banques pensent que les ressources génétiques sont faites pour les chercheurs, sont faites pour la recherche et pour la sélection, ne sont pas faites pour des paysans. Et donc, aujourd'hui même, il y a, à cause du traité international sur les ressources phytogénétiques, il y a une obligation d'avoir un accord de transfert de matériel, et il faut signer quasiment une sorte de convention lorsque vous récupérez une variété locale pour un paysan, par exemple, de sa région. S'il veut aller le chercher, il lui faudrait un accord, un ATM, de transfert de matériel, dans lequel on peut lui demander de ne pas l'échanger, de ne rien faire avec ça, que de produire, mais sans l'échanger. Alors que pour lui, il n'y a aucun moyen de penser qu'il va simplement la cultiver et qu'il ne va pas la passer à son voisin.
Il faut préciser que la liasse de papier qu'il va devoir signer est pratiquement plus conséquente et importante que la poignée de graines qu'il va récupérer.
En poids, là, sûrement, oui. Parce que la poignée de graines, c'est 100 graines hein, qu'on va lui donner. Hein. Et donc, la liasse de papier, je suis sûr qu'elle fera peut-être un petit kilo. Oui.
Donc, résumons-nous. Ces semences, elles sont venues des champs, des paysans, puisque c'était eux qui les cultivaient depuis des temps immémoriaux. Elles ont atterri dans des banques publiques. Très souvent, elles ont disparu des champs, puisque de fait, il s'agissait d'acheter des semences certifiées, industrielles, améliorées, j'ai mis une paire de guillemets, vous devinerez où. Et aujourd'hui, pour les récupérer, pour en ressemer quelques-unes, comme c'est le souhait des paysans qui sont dans le réseau Semences Paysannes, ça devient très difficile. D'autant plus difficile que vous évoquiez tout à l'heure les aléas climatiques, les typhons et puis les guerres. Il y a également un certain nombre de collections nationales qui aujourd'hui sont un peu en déshérence. Patrick de Cochecco.
Oui, oui, c'est vrai que le constat est un peu inquiétant, à la fois par l'évolution vers la privatisation de ces centres de ressources, le fait que ces centres de ressources génétiques, en général, voient leur possibilité de continuer leur travail qu'en travaillant avec l'industrie qui peut cofinancer certaines activités et certaines activités de recherche parce que l'industrie est intéressée pour accéder à ces ressources.
Donc c'est en fait l'industrie semencière et l'industrie des pesticides et oui. qui vont financer ces banques.
Oui, c'est ça. C'est vers là qu'on va. C'est l'évolution qui nous est proposée parce que, justement, ils conservent des gènes et sont les seuls à pouvoir empiler des gènes. Nous, on sème des plantes, on vit avec des êtres vivants, on cultive des êtres vivants et on fait pas du bricolage génétique. C'est un discours qui n'est pas le nôtre, c'est pas nos pratiques. Il est urgent que les paysans se réapproprient la conservation dans les champs, la conservation vivante, parce que c'est ça qui va régénérer la biodiversité. C'est pas le fait de conserver tout ça au frigo, parce que d'un côté, c'est pas effectivement techniquement parfait, on l'a dit, il y a de l'érosion, et puis on est en train de privatiser l'ensemble du système. Il est quand même notable de remarquer que, justement, quand on a mis toutes ces semences paysannes dans des centres de ressources génétiques, dans des banques de gènes, à partir de ce moment-là, s'est mis une réglementation en place où les paysans étaient obligés d'acheter des semences industrielles, des clones, et ils n'avaient plus le droit d'acheter les semences qu'ils s'échangeaient et qu'ils se vendaient les uns entre les autres avant. Au même moment où on capte la diversité génétique, où on l'enferme dans les frigos, au même moment, on impose les variétés industrielles, les variétés des clones. Et ce que je voulais dire par rapport à ces centres de ressources génétiques, c'est un peu symbolique aujourd'hui, qui même si Bill Gates, c'est pas lui qui a payé le plus gros paquet de la banque de Svalbard, il y est quand même dedans. C'est, on dit, l'un des hommes les plus riches de la planète, si c'est pas le plus riche de la planète, et sa richesse, c'est sur la propriété intellectuelle. Donc, il a fait son argent sur la confiscation de choses. Qui peut acheter aujourd'hui un ordinateur sans le système de Bill Gates? Il a fait quelque chose qui a supprimé la diversité aussi à ce niveau-là, où les logiciels libres, quelque part, sont un peu comme les semences paysannes, ils se bagarrent pour exister dans un espace qui est très contraint et dans lequel on a mis des droits de propriété intellectuelle, des brevets partout, qui empêchent cette biodiversité de vivre.
Mais alors, ce qui m'a étonné dans la description que vous avez faite dès le départ, c'est que ce que vous avez décrit, ce sont des gens qui se mettent dans un travail non plus de paysan, c'est-à-dire de faire pousser des plantes pour nourrir les gens, mais plutôt d'expérimentation, de petites parcelles. C'est-à-dire, on expérimente des choses, on a le droit d'échanger, mais à petite échelle, on a le droit de vendre, mais des toutes petites quantités. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé finalement dans une transposition. On a transposé les semences des champs jusque dans les laboratoires, et maintenant on a l'impression qu'on a transposé les laboratoires dans les champs.
Oui, c'est vrai, on pourrait parler de paysans-chercheurs, des paysans qui font de la recherche, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas simple de vivre, de cultiver des plantes, d'élever des animaux. Ça nécessite des choses qu'on ne trouve pas forcément dans les livres et dans les écoles. Ça nécessite un sens de l'observation très particulier, et ça nécessite peut-être une sensibilité aussi très particulière, et ça s'apprend pas forcément dans les écoles, ça s'apprend surtout par la transmission. Les paysans, ils sont vraiment de tradition orale, ils ont besoin de voir les choses et ils les commentent, ils les observent et voilà, ce blé il me plaît parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce qu'il est grand, parce qu'il est rouge, parce qu'il est doré, ce maïs c'est pareil, quand on l'a goûté, mes animaux ils sont contents, les fourragères, la diversité fourragère, je vois que mon troupeau et j'ai choisi ces animaux là pas parce que c'est les plus gros et pas forcément parce qu'ils vont me rapporter énormément, mais parce que je sais qu'ils vont durer et qu'ils vont pouvoir conserver une diversité génétique sur ma ferme. Toutes ces choses là, c'est des choses qui peuvent ne se transmettre que par des échanges entre les paysans, en bord de parcelles, mais c'est des choses qui avaient disparu. Et donc on a encore quelques anciens qui aussi nous ont transmis ce qu'ils ont reçu eux, leur savoir-faire et leur expérience, mais il faut en réinventer d'autres, avec des plantes pour demain, pour aussi d'autres peut-être évolutions climatiques, d'autres besoins alimentaires. On voit bien les problèmes d'allergies alimentaires qui sont très importants, qui se développent de façon incroyable. Donc il faut y revenir à une alimentation plus saine. Et ça, on a aussi besoin d'autres acteurs. On a besoin des citoyens citoyens, on a besoin des chercheurs, et on travaille avec pas mal d'équipes de chercheurs pour nous aider à retrouver ces savoir-faire. Parce que quand moi j'observe un blé, moi je l'ai dit tout à l'heure, je suis né dans le béton, quand j'observe un blé, je suis pas capable de dire si ce blé, il va faire un bon pain, s'il a du gluten, si ce gluten il est digeste, s'il a beaucoup de gluten et s'il est digeste, s'il a des oligo-éléments, s'il a des choses qui sont importantes pour nourrir sainement les gens.
Alors j'aime bien votre côté positif, parce que finalement vous choisissez de dire oui, les paysans chercheurs et les chercheurs aident les paysans, c'est formidable. Moi, ce que je remarquais, ce que je soulignais, c'est que finalement, cette pratique qui était la pratique ancestrale du monde paysan, celle qui consiste à observer, ressemer, choisir les semences qui paraissent les plus belles, les meilleures, les plus goûteuses, les plus joyeuses à regarder, cette pratique-là, jusque dans vos champs, maintenant, ça n'est plus qu'une petite partie des champs, c'est-à-dire c'est des petites parcelles, c'est sous forme de collection, c'est-à-dire vous n'avez pas multiplié les variétés si. Que vous avez retrouvées. Ah.
Si. Justement, une fois qu'on a fait ce travail d'observation, une fois qu'on a choisi dans la diversité qui nous reste, on fait notre sélection et on a trouvé les plantes qui nous plaisent. En ce qui me concerne, moi j'ai encore un mélange de blé qui vient de ce travail-là, qui a été choisi dans une collection où j'ai mélangé tous les blés qui me plaisent et tous les blés qui m'ont donné aussi des résultats qui, grâce au programme de recherche dans lequel on est, m'ont permis de dire, ben non, celui-là finalement il va pas être tout à fait adapté chez moi. Celui-là il est bien, il se comporte bien, il donne une belle paille, il est pas malade, et je les assemble, et donc on a des grands champs avec ces blés-là. Moi, je n'ai que des blés comme ça. Et
vous avez le droit de les vendre ?
Oui, j'ai le droit de vendre ma production. Je vais avoir du mal à vendre ça comme une semence, je pourrais dire, voilà, la population de Gauchko, et la mettre sur Internet, je dirais, voilà, des semences de population de Gauchko. Là, j'aurais peut-être des ennuis au niveau de la législation, mais rien ne m'empêche de faire de la farine, du pain avec, de vendre la farine, de vendre le pain, et rien ne m'empêche de vendre le blé même à celui qui veut me l'acheter.
Bah alors là, vous me coupez un peu l'herbe sous le pied, Patrick de Gauchko, parce que il semblerait que tous les problèmes soient résolus, et j'allais me tourner vers Frédéric Latour pour lui demander pourquoi le réseau Semences Paysannes avait trouvé nécessaire à un moment d'ajouter une pierre à son édifice, les maisons des semences, mais peut-être d'abord il faut lever cette ambiguïté sur droit, pas droit, puisque tout de même, on a le droit ou on n'a pas le droit, finalement ?
Ça dépend de quoi on parle. Je le redis, ce qui est compliqué au niveau réglementaire et ce qui est interdit, c'est de vendre des semences avec une appellation, parce que pour vendre des semences, aujourd'hui, il faut qu'elles soient industrielles et donc qu'elles répondent aux critères de l'industrie, que ce soit des clones. On a le droit de vendre, sur le mettre en marché, que des clones.
Donc en fait, vous seul avez le droit de faire du pain avec le blé que vous semez ?
C'est ça, c'est-à-dire que je pourrais pas dire, voilà, ma variété, c'est ma variété à moi, je la vends comme une semence de telle variété à mon voisin, et lui, il va pouvoir réclamer, dire, je fais du blé qui est issu de la variété de Gauchko de mon voisin. Ça, c'est pas possible. Mais la culture est cultivée, si mon voisin en veut, je vais lui en donner une petite quantité pour qu'il l'expérimente et pour qu'il m'aide à la conserver, et lui, il va la multiplier, et il va pouvoir ensuite faire du pain avec.
Et ce que vous dites s'applique à toutes les semences de toutes les cultures ?
Alors non, c'est pas vrai. La réglementation est complexe et donc elle est adaptée en fait aussi. Elle a été développée en fonction de la diversité des semences. Et le blé n'est peut-être pas forcément la plante la plus adaptée pour faire comprendre le carcan réglementaire dans lequel on nous impose de vivre. Parce que effectivement, le blé, on vend le grain et le grain, c'est la semence. Quand on est dans les potagères, quand on prend par exemple l'exemple d'un chou ou d'une courge, ce qu'on vend c'est le fruit, et à l'intérieur du fruit il y a des semences, il y a des graines, mais ce que le maraîcher va vendre c'est le légume. Et là effectivement ça devient compliqué parce que lui par contre il a interdiction de vendre les graines qui sont à l'intérieur de la courge ou les semences du chou pour la variété qu'il prétend être.
Donc Frédéric Latour, c'est le moment de se tourner vers vous. Vous êtes animateur au sein du réseau Semences Paysannes et vous êtes particulièrement intéressé à ces maisons des semences. Et justement, alors qu'est-ce que c'est que ces maisons des semences dans le cadre de ce carcan que Patrick de Gauchko vient d'évoquer? Et puis on a parlé des banques publiques, privées. Est-ce que c'est une réponse à ces banques? Est-ce que c'est un élargissement de la pratique des collectionneurs
Bon, une maison des semences, il faut voir. Bon, premièrement, il ne faut pas voir ça comme une maison physique où on entrepose des graines, des semences, mais plutôt comme une organisation collective de gestion des semences paysannes. Donc, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les pays du Sud. On appelle ça des cases communautaires de semences ou alors des casas, des semillas campesinas en Amérique latine, au Brésil, etc. Donc, c'est quelque chose de très développé dans des endroits où il y a encore des systèmes autonomes paysans, des sociabilités très fortes vis-à-vis de la semence, où les gens se regroupent spontanément, entre guillemets, pour échanger, conserver, sélectionner leurs semences. En France, on a un peu repris ce concept pour justement faire valoir le côté collectif de la semence, notamment parce que ce flou juridique ne permettait pas de développer et de renouveler une biodiversité drastiquement érodée.
C'est-à-dire qu'en fait, chacun des participants au réseau se retrouvait quand même, comme je le disais tout à l'heure, cantonné à faire des quantités tout à fait infimes, et ça rendait difficile de recommencer à multiplier toute cette biodiversité.
Ouais, il y a plusieurs exemples en fait. C'est pour donc on a vu que c'était très différent selon les plantes, c'est très différent selon les terroirs. On va dire que chaque collectif est aussi déterminé par sa géographie, son mode de commercialisation, sa production. On va prendre quelques exemples, je pense, de maisons des semences pour que ce soit plus clair. Moi, je vais partir du blé pour passer un peu de toutes les céréales et les potagères et les fruitiers. Le blé, par exemple, c'est la prémultiplication est assez longue. Donc certains collectifs se sont dit pourquoi ne pas faire conserver l'étape de conservation qu'on a évoquée tout à l'heure. Pourquoi ne pas la faire par des jardiniers. C'est assez facile dans un jardin de prendre 2-3 variétés en conservation. Donc ce travail-là, le paysan ne le fait pas, et travaille avec le jardinier pour récupérer les semences. Donc en fait, les jardiniers peuvent prémultiplier pour les paysans, pour qu'ils puissent en blaver quelques hectares. Ensuite, sur les potagères, il y a ce système-là qui fonctionne aussi avec la tomate. Les jardiniers peuvent prendre en charge certaines variétés à conserver, et ce qui décharge aussi les maraîchers, qui n'ont pas le temps de faire ce travail de conservation. Voilà, donc là, on est dans une optique un peu plus collective, pour qu'il y ait des semences disponibles, on va dire en quantité et en qualité suffisante pour les paysans.
C'est-à-dire, vous avez dit que les maisons des semences, c'était pas des maisons. De fait, on a assisté à l'inauguration de la maison des semences d'Emmaüs, l'Escarpeau. Il y a une maison. Mais ce que vous soulignez, et qui est effectivement important, c'est que, à partir de cette maison, les semences repartent très rapidement dans plusieurs jardins, dans plusieurs champs, c'est chez plusieurs personnes. C'est-à-dire que ce n'est plus une personne qui est chargée de conserver et de perpétuer une semence, mais on répand la semence déjà chez plusieurs collectionneurs.
Et en ça, c'est le contraire de la banque, quelque part. Donc là, la semence est remise en culture chaque année, donc ce qui lui permet de s'adapter à son milieu. Donc en ces temps de changement climatique, de réchauffement, c'est très important. Ce que ne peut pas faire une banque, on le fait dans les champs, quoi. C'est évident. Je voulais prendre quelques autres exemples, peut-être.
Peut-être, s'il est vraiment différent.
On parlait de la réglementation. Donc il y a certaines espèces où il y a vraiment un monopole total des semences industrielles. Donc par exemple le chou. Ou à un moment donné, même en agriculture biologique, on se voyait imposer des choux issus de cultures génétiquement modifiées. Ça s'appelle la stérilité mâle cytoplasmique. Du coup, les producteurs bretons, eux, face à ça, et donc il n'y avait pas d'offre de semences adaptées pour l'agriculture biologique en choux. Donc ils se sont regroupés pour multiplier à l'intérieur de leur assos les semences nécessaires pour leur campagne de maraîchage. Donc ça, c'est un exemple aussi de regroupement, de mutualisation paysanne sur de la conservation, sélection, multiplication.
Oui, puisqu'en fait, les critères de la bio font que, pour être considéré comme biologique, une semence doit avoir été obtenue dans des conditions biologiques uniquement à la dernière génération, c'est ça ?
Oui, c'est ça, Donc en fait, et surtout,
ça peut être des lignées tout à fait industrielles.
Voilà, ça peut être des lignées tout à fait industrielles multipliées en dernière génération dans les conditions de l'agriculture biologique. Donc c'est en contresens par rapport à la définition même de l'agrobiologie. C'est ça qui est intéressant.
Alors pour les fruitiers, la question est encore différente.
Oui, donc là on a parlé du maraîchage où on est sur beaucoup d'espèces très différentes, donc beaucoup de charges de travail, donc des nécessités de s'associer. Pour les fruitiers, c'est un peu la contrainte est sur donc en comparaison, si on part du semis sur un pêcher, il faut attendre 5 ans avant d'avoir les premiers fruits. Donc là on est dans un temps très long, donc le travail ne se fait pas de la même manière. Certaines associations ont trouvé un peu des billets pour pallier à cette contrainte-là. Par exemple, une qui est basée en Ariège qui rénove des anciens vergers de particuliers et qui conserve cette diversité en multipliant par greffage, et ensuite qui valorise le fruit via un pressoir mobile qui passe dans les villages. Donc c'est une manière en fait de rémunérer un travail de conservation sur le long terme. Donc ils ont trouvé la forme pour rémunérer ce travail-là, on le faisait par la transformation des fruits anciens qui se trouvaient dans la région, quoi.
On a commencé cet entretien en parlant d'Auzeville, 2003. Nous voici en 2015 dans le village d'Emmaüs à l'Escarpeau. On a assisté à 2 journées de rencontres internationales, 30 pays représentés. On a inauguré une maison des semences. Est-ce que vous avez le sentiment d'arriver au bout du chemin, Patrick de Koschko?
Non, je crois pas. Je pense qu'on est encore loin du bout du chemin, et heureusement d'ailleurs. Peut-être qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble, mais c'est une étape de plus, oui, c'est un cap de plus. On se construit par ces rencontres, c'est des collectifs qui s'élargissent, des réseaux qui se dispersent. Moi, je trouve que ce qui me touche beaucoup dans ces rencontres, c'est à la fois de voir beaucoup de jeunes qui viennent, qui sont intéressés, qui veulent venir à la terre, qui veulent cultiver, et avec plein de motivation, d'intérêt, de curiosité. Ça nous donne de la force de voir ces jeunes qui viennent comme ça, qui ont vraiment envie de faire des choses. Et puis, ce lien avec cette communauté, avec ce village très particulier d'Emmaüs l'Escarpeau, qui est engagé depuis longtemps sur la voie de l'agroécologie, qui veut manger autre chose que les restes qu'on leur donne de la grande distribution. C'est un démarrage, en fait, ces rencontres avec eux. C'est un point de départ, et on va continuer avec eux pour aller vers une autonomie en pain, pour qu'ils aient les légumes dont ils ont besoin, qu'ils se nourrissent. Ils ont vraiment, je pense, aussi retrouvé la joie de manger des choses diverses, des choses qu'ils ne mangent pas forcément d'habitude.
Et le volet international, qu'est-ce que ça apporte aux uns et aux autres, ces rencontres avec des Africains, des Iraniens, des Boliviens?
Ça nous permet de voir que les contraintes sont aussi diverses. On a eu des témoignages très forts de Colombie, des gens qui s'organisent aussi pour retrouver la terre ensemble, pour que la terre devienne un bien commun. Ils le gèrent effectivement comme un bien commun. On a vu des témoignages de gens du Mexique qui nous ont fait passer le message de retrouver, peut-être le plus important, de retrouver cette vision du vivant où on n'est plus, nous, l'homme au centre et qui domine et qui domestique tout, mais on fait partie du vivant et du coup on le respecte beaucoup plus et on est beaucoup plus en harmonie avec le vivant. Donc ça, c'est nous aussi, on est souvent un peu centré sur nos propres performances, sur le monde occidental qui se croit aussi un petit peu au-dessus des autres, et je pense que ces rencontres sont souvent nous montrent que c'est eux qui nous montrent la voie, parce qu'ils ont maintenu de façon beaucoup plus solidaire leur communauté, et ils ont une organisation, des organisations qui sont très très poussées, très sophistiquées, avec leurs propres règles, et ils nous enseignent beaucoup de choses. Pour nous, c'est beaucoup, et je pense que eux, ce qu'ils viennent chercher aussi, c'est justement le fait qu'il y a une alternative. On n'est pas que dans ce qui est l'image du monde occidental qui ne mange plus que du fast-food. Je pense qu'ils viennent chercher aussi ce message-là pour dire que la résistance s'organise ici aussi. Elle se sème par ici aussi.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger, la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez des liens vers le réseau Semences Paysannes et d'autres réseaux, ainsi que notre revue de web hebdomadaire et les informations sur les musiques choisies par Jean-Christophe Francis. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, Laurence Chenepin. Revue de web, Anne Gouzon. Mixage, Éric Boisset. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.
Thank you.